VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 10 minutes Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. Côte d'Ivoire, 4 réfugiés ivoiriens pro-Gbagbo, dont l'ex-ministre de la Défense Kadé Bertin, sont maintenant de retour au pays natal. Ils sont arrivés jeudi soir à Abidjan en provenance du Ghana. Le retour des réfugiés est un enjeu majeur pour la réconciliation nationale et l'une des priorités du président ivoirien Alassane Ouattara, plus de 5 ans après la fin de la crise post-électorale de 2010-2011. D'après l'UHCR, plus des 2/3 des 300 000 Ivoiriens ayant fui leur pays pendant ou après le conflit sont maintenant rentrés chez eux, mais il reste encore notamment 20 000 réfugiés au Libéria, 7 000 en Guinée et 11 000 exilés pro-Gbagbo au Ghana voisin. Au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité Simon Compaoré a fait le point sur l'avancée des enquêtes sur les attaques terroristes qui ont frappé Ouagadougou le 15 janvier dernier. À la suite des interpellations effectuées, 10 suspects sérieux sont entre les mains de la gendarmerie et 3 des 10 présentent un intérêt commun avec les attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
Depuis les attaques terroristes qui ont frappé la capitale burkinabé en janvier dernier et qui ont fait une 30aine de morts, les Burkinabés se demandaient où en est l'enquête. Ce jeudi, le ministre de la Sécurité a levé un coin de voile. On écoute le ministre Simon Compaoré.
10 personnes ont été retenues, dont 3 présentent un intérêt particulier pour les enquêtes de Capuchino, de Grand Bassam, de même que pour les attaques de Oursi en août 2015.
Parmi les suspects sérieux arrêtés, il y a 3 femmes, a assuré le colonel Serge Alain Ouedraogo. Il est le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie et coordonnateur des investigations.
Par rapport aux 3 dames, il y avait une voiture V8 qui a été beaucoup utilisée dans les opérations à la fois à Grand Bassam et à Capuchino, et qui servait à transporter les djihadistes mais également le matériel. Et le chauffeur principal donc, de ce véhicule a été identifié et c'est sa sœur qui a été interpellée au Burkina. Maintenant, les 2 autres femmes, il y a une qui est la femme d'un des grands suspects qui a été interpellé. Et dans l'interpellation, sa sœur était également présente. Donc, ça fait 3 femmes.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Nigeria, pour lutter contre le bruit, les autorités de Lagos, la grande métropole du sud du pays, ont fait fermer des dizaines d'établissements, notamment des mosquées, des églises et des hôtels. Les détails avec John Lyndon.
Le patron de l'Agence de la protection de l'environnement, Rachid Adebola Chabi, a ordonné cette fermeture après le refus par certaines églises et mosquées de respecter une directive gouvernementale sur la diminution de la pollution sonore. 70 églises, 20 mosquées, 11 hôtels, clubs et débits de boissons ont ainsi été fermés à Lagos, la ville la plus peuplée du Nigeria, avec ses quelques 20 millions d'habitants. Lagos est réputé pour ses embouteillages monstres et son vacarme, dû en partie aux églises et mosquées qui diffusent leurs messages à grand renfort de haut-parleurs. Le niveau sonore autorisé aujourd'hui est de 55 décibels dans la journée et entre 42 et 45 la nuit. Le gouvernement espère parvenir à éliminer les nuisances sonores d'ici 4 ans. Les autorités locales ont aussi limité l'utilisation des klaxons et sirènes des véhicules dans la même optique.
En RDC, décès de l'organisateur des premières élections libres au Congo-Kinshasa depuis l'indépendance, l'abbé Apollinaire Malumalu. Des détails avec Anastasie Tudjesh.
Son évêque Melchisedec Sikouli l'a annoncé dans un communiqué transmis à l'AFP. L'abbé Malumalu est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Dallas, dans l'état du Texas, où il était soigné sans que soit précisée la maladie. Des besoins de soins qui l'ont tenu éloigné de la scène publique depuis sa démission le 10 octobre 2015. L'abbé dirigeait alors la commission électorale indépendante, la CEI, devenue la CENI, commission électorale nationale indépendante. Il avait été rappelé à la tête de l'organisation en 2013 contre la volonté de l'Église catholique alors qu'il était conseiller du président Joseph Kabila. Originaire du Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'abbé Malumalu allait avoir 55 ans.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, le Forum pour la conscience et le développement FOCOD, une ONG locale, dénonce un trafic de filles vers les pays du Moyen-Orient, comme le Sultanat d'Oman et l'Arabie Saoudite. Certaines autorités burundaises sont pointées du doigt dans le soutien et dans la complicité de ce trafic d'êtres humains. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joint le président de FOCOD, Pacifique Ninina Azoué.
Nous avons mené une enquête à Tiankouzo, dans d'autres coins, à l'aéroport de Bujumbura, où nous avons fait une surveillance pendant 2 semaines, du 3 juin au 17 juin. Nous avons constaté, rien qu'en 2 semaines, un mouvement de 225 filles qui allaient à Oman et qui allaient en Arabie Saoudite, et qui chaque fois étaient accompagnées d'un trafiquant jusqu'au tarmac de l'aéroport, ce qui montrait que ce n'était pas normal, que le trafic était soutenu en haut lieu. Il y a des groupes, des sociétés de trafiquants, au moins 5 sociétés de trafiquants et qui sont soutenus, qui sont d'abord agréés, enregistrés à l'Agence pour la promotion des investissements API et qui sont soutenus par le reste des autorités burundaises. Nous avons trouvé que, par exemple, à la PAF, ces sociétés reçoivent des passeports de ces filles qu'elles recrutent et de manière groupée et avec une facilité extraordinaire. À Muyinga, à Bubanza, à Tiankouzo, comme je disais au départ, et à Bubanza, c'est là où ça s'est aggravé, où, par exemple, des responsables du parti CNDD-FDD ont cru à des mensonges de salaire alléchant en Arabie Saoudite et ont fini par envoyer leurs propres filles et leurs épouses.
C'est à quel prix et quel traitement elles subissent?
Chaque femme qui arrive notamment à Oman coûte 500 riyals omanais, c'est environ 1000 euros. En francs burundais, c'est autour de 2 millions et demi.
Est-ce que c'est le parti qui organise ça ou ce sont des individus, membres du parti qui utilisent le label partie, mais pour des fins...
Il est possible que ce soit un commerce de quelques personnalités. Mais la manière dont les différentes autorités ou les différents organes de l'État se sont comportés dans cette affaire, il est difficile de distinguer ce qui serait fait par des autorités à titre personnel. Par exemple, un ministre qui a posé un acte en utilisant son titre de ministre, c'est la ministre de la Santé qui a autorisé l'hôpital Kira Hospital le 22 décembre à faire des examens médicaux au profit d'une des compagnies de trafiquants. Ça donne l'impression que c'était un trafic soutenu par le gouvernement, soutenu par le parti.
Est-ce que vous auriez touché les responsables de ce parti pour en savoir davantage?
Malheureusement, vous savez, le FOCOD est suspendu à Bujumbura.
Et quelles sont les conséquences sur les familles?
Des familles qui sont disloquées, des foyers disloqués. Il y a des femmes qui sont parties sans avertir leur mari. L'autre conséquence, c'est l'abandon des enfants. La nostalgie, les regrets, les situations d'abandon scolaire pour les jeunes filles.
Pacifique Ninina Hazoué, président du FOCOD, le Forum pour la conscience et le développement. Récemment, la police burundaise a reconnu l'implication de certaines sociétés dans ce commerce, mais sans remettre en cause aucune autorité de l'État. Au Royaume-Uni, après la victoire des partisans du Brexit, la sortie du pays de l'Union européenne, les insultes et les actes xénophobes se sont multipliés. Particulièrement visés, les membres de la communauté polonaise et la communauté pakistanaise. Qu'est-ce qui explique cette vague d'actes racistes et a-t-elle été inspirée par la campagne en faveur du Brexit avant le référendum? La réponse de René-Claudel Mugenzi du London Center for Social Impact à Londres, au micro également d'Eric Manirakiza.
Le discours a été développé pendant cette période, mais je ne crois pas que les gens qui ont fait la campagne, c'est eux qui ont fait que ça s'est monté, parce que ce sont les gens seulement qui voyaient le Brexit comme une opportunité pour que les gens qui n'aiment pas quitter le pays, ils ont voté en pensant que ça allait se faire, mais ça ne s'est pas fait. Donc c'est ça, ce n'est pas la campagne qui a fait ça, mais eux, ils ont pris le référendum comme un moyen de penser que le référendum va les aider à déporter tous les gens, ou les gens vont partir du pays.
Oui, mais il y a des gens qui ont eu peur et qui ont décidé de quitter le Royaume-Uni.
Et le nombre, ce petit nombre, et aussi il y a des enfants qui n'ont pas parti à record parce qu'ils pensent qu'ils seraient arrêtés et déportés, mais le nombre des gens qui ont quitté, ils sont vraiment peu. Le pays n'a pas déporté ou n'a pas demandé déjà de quitter. Même les gentils leaders du Brexit campaign ne sont pas en train de demander déjà de quitter.
Et c'est une situation maîtrisable?
Tous les côtés du campagne, ils sont en train de demander à la population d'arrêter. La police, il est en train de faire une bonne campagne d'arrêter ces gens-là qui sont en train de faire. faire ça. Ils ont tenté d'envoyer des messages partout que les gens qui seront vraiment arrêtés, emprisonnés, que ça ne serait pas tolérable. C'est à cause de la tension qui était derrière toutes ces campagnes et ce référendum que je pense qu'a causé cela. Et j'espère que dans quelques jours, ce sera terminé.
René Claudel Mugenzi à Londres. Et pour terminer l'Euro 2016 de football, le pays de Galles affronte ce soir la Belgique dans le deuxième quart de finale à Lille. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Bonne soirée et bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.